7 heures venaient de sonner à la métropole, et toutes les paroisses de Paris avaient successivement répondu à cet appel en faisant retentir les airs, les unes d'un joyeux carillon, les autres de leur accent grave et sonore. Il faisait presque nuit, quoiqu'on fût alors à la fin d'avril, tant le ciel était voilé par de gros nuages noirs qui, depuis l'aube, laissaient échapper de leur sein une pluie fine et pénétrante. Aussi, chacun marchait-il avec précaution sur le pavé boueux et glissant. Seul, un enfant d'une douzaine d'années, évitant avec adresse les passants affairés et les nombreuses voitures, descendait d'un pas sûr et rapide la rue vieille du Temple. Des vêtements mouillés, usés, et sur lesquels plusieurs pièces de couleurs tranchantes formaient des dessins bizarres, annonçaient clairement que cet enfant devait appartenir à la classe indigente de la société. Jamais plus espiègle, plus spirituelle figure de gamin n'avait souri à ceux qui la regardaient. Jamais plus ravissante tête ne s'était coiffée bien de travers d'un formidable bonnet de police, relique glorieuse d'Austerlitz. Il avait appartenu jadis à un grenadier de la vieille garde et s'était vu réduit de vicissitude en misère à devenir la coiffe de prédilection du petit Jacques, dont il avait grand mal à contenir la belle et abondante chevelure brune. Jacques était l'aîné et le seul garçon des nombreux enfants d'un pauvre porteur d'eau nommé Pierre. Pierre était mort depuis quelques mois à peine, à la suite d'une de ces longues et douloureuses maladies qui mettent parfois en défaut les soins de la science les plus éclairés et la charité la plus sublime. Pour ne pas laisser vide le tonneau d'où découlait la source de vie où s'abreuvait sa famille entière, le courageux porteur d'eau fit longtemps des efforts surhumains. Mais dans cette lutte désespérée, le mal finit par l'étreindre et le terrasser, de telle sorte qu'il dut s'aliter. Puis, lorsque toutes les ressources de l'humble ménage furent épuisées, malgré les sanglots de sa jeune femme, les pleurs de ses petits-enfants, malgré l'affreuse douleur qui lui causait leur adieu, précédant de si peu la séparation éternelle, Pierre eut la force de se traîner comme il le put jusqu'au plus prochain hôpital. Il y arriva à temps pour mourir avec la foi d'un martyr. Dès que Jacques n'avait plus trop chancelé sur ses petits pieds roses en courant après sa mère sur le plancher inégal de la mansarde, dès qu'il avait su bégayer sa première prière au bon Dieu, comme les jeunes oiseaux lui gazouillent au printemps l'hymne éternel de la nature, il avait été envoyé régulièrement à l'école. Ses moyens intellectuels étaient aussi grands que sa bonne volonté pour apprendre. Son imagination active allait, pour ainsi dire, au-devant des leçons, des explications des bons frères chargés de l'instruire. Aussi fit-il des progrès rapides, et peu d'années lui suffirent pour apprendre à bien lire, à écrire correctement sa langue et à parfaitement compter. C'était plus qu'il ne fallait de science au fils d'un humble porteur d'eau qui, un jour, devait l'être lui-même selon toutes les probabilités. Aussi, quand son père se mit au lit, pour ne point se relever, il ne fut plus question pour Jacques, qui déjà avait fait sa première communion avec une grande ferveur, d'en apprendre davantage. On avait trop besoin de lui à la mansarde, soit pour garder le malade pendant les longues absences de la mère, soit pour faire les commissions au dehors, ce qui arrivait fréquemment. Insensiblement, les courses de Jacques se multiplièrent. Le cercle qu'il parcourait s'agrandit. Parce que plusieurs des anciens clients de son père, qui habitaient dans le voisinage, charmés de la quiesse de cet enfant dans lequel il trouvait un petit commissaire aussi probe qu'intelligent, aussi discret qu'actif, l'employèrent tour à tour pour leur propre compte. Ils étaient heureux de lui faire gagner un léger salaire et d'améliorer ainsi la position de ses excellents parents. Il résulta que cette liberté d'action, dont Jacques jouissait des journées entières, fit naître en lui un grand penchant pour la flânerie. Il augmenta la profonde antipathie qu'il éprouvait déjà pour un travail manuel. Ce fut un malheur, car lorsque la mort le rendit orphelin, les choses devinrent pires encore. Jacques, sous prétexte de venir en aide à sa mère en glanant quelques sous de ci, de là, s'esquivait parfois du logis à peine faisait-il jour, et ne rentrait le soir que le plus tard possible, surtout lorsqu'il avait le gousset vide. Voilà pourquoi, par cette maussade journée d'avril, il était encore à 7 heures passées dans la rue Vieille du Temple, courant le nez au vent et le bonnet de police crânement posé sur l'oreille. Jacques, arrivé à la maison qui, depuis son entrée dans la rue, semblait attirer ses regards, s'arrêta en face de l'échoppe d'un cordonnier envieux, et formant une espèce de porte-voix de ses petites mains maigres et hâlées, il l'appuya sur sa bouche en criant d'un ton capable de faire écrouler le frêle édifice qu'il avait devant lui. « Bonjour, père Rondeau !»«
Ah, méchant gamin, quelle peur j'ai eue !»
s'écria le savetier qui n'avait pas vu venir l'enfant, occupé qu'il était à regarder une vieille paire de bottes.
« Mais tu n'en fais jamais d'autre, Jacques !» poursuivit-il avec chagrin.
« Dame, c'est vous qui êtes si sourd, père Rondeau !»«
Pas tant qu'il te plaît de le dire, mon garçon. Cela ne m'empêche pas de voir que tu viens de vagabonder comme un temps ordinaire. »«
Comment, de vagabonder, moi ? Quand toute la journée, sous la pluie, sous le vent, j'ai cherché à faire des commissions ?»«
Mais lorsqu'il fait un temps pareil, les Parisiens n'ont pas besoin de mes services, à ce qu'il paraît. » Et personne n'a voulu m'employer.
Ah, père Rondeau, fit-il tout d'un coup, désirant évidemment changer de conversation. Comme votre échoppe a été bien achalandée aujourd'hui, et quels beaux sous de toutes les couleurs vont danser dans votre escarcelle quand cette besogne sera faite.
Oui, le gain sera fort honnête. C'est que, vois-tu, Jacques, j'aime à contenter mes pratiques, au lieu d'aller comme toi courir par monts et par veaux.
« Cela ne vous serait guère facile de courir comme moi, » riposta Jacques, qui ne put retenir un franc éclat de rire, à la pensée de voir le bonhomme, qui était aussi rond que son nom, lui disputer le prix de la course.
« Tu te moques de moi, petit. Cela est mal, bien mal. Mais tu ferais mieux, je t'assure, de travailler pour soulager et consoler ta mère, pauvre voisine Marthe, que ton père a laissé là avec 5 enfants pour s'en aller.
Au ciel !» interrompit Jacques avec vivacité, en faisant le signe de la croix.
« Au ciel, » répéta-t-il d'un ton plus triste, « où il prie le bon Dieu pour nous. »«
Oui, il prie, c'est sûr. Il vous aimait tant sur la terre. Mais il ne peut de là-haut vous envoyer le pain qui vous manque. Dieu n'aidant jamais que ceux qui veulent bien s'aider.
Aussi, je vais te le dire pour la 100e fois, peut-être, » poursuivit l'excellent homme qui accompagnait ses paroles de sourires et de gestes affectueux. « Si tu avais tant soit peu le cœur vaillant de ton père et la moindre bonne volonté, je pourrais te prendre avec moi. Je me fais vieux, je marche difficilement. Tu reporterais l'ouvrage aux pratiques, et je t'apprendrai mon état. Sans compter que Madame Rondeau, qui raffole de toi, la brave femme, te donnerait 2 sous par jour, une écuelle de bonne soupe et quelquefois du lard avec. Hein, qu'en dis-tu, mon garçon ?
J'en dis, dame, j'en dis que c'est bien à désirer de la soupe tous les jours et du lard par-dessus le marché.
Mais tenez, père Rondeau, je ne puis me faire à l'idée de rester toujours assis là, près de vous, sur cet escabeau qui ne me paraît guère rembourré de plumes, pour raccommoder de vieilles savates qui sentent.
Pouah ! Vous savez bien ce qu'elles sentent, les savates.
Comme tu voudras, mon garçon. Je ne puis te forcer à être heureux malgré toi. Cependant, réfléchis bien. Ces vieilles savates que tu méprises si fort et qui te donnent des nausées m'ont permis d'amasser de si bonnes rentes qu'elles mettent ma vieillesse et celle de Jeanne à l'abri de tous les besoins de la vie. Sans compter qu'avec elle, j'ai toujours eu des chaussures neuves aux pieds et du pain blanc dans la huche.
Ah, fit Jacques avec un gros soupir, nous n'en avons pas un morceau chez nous, même du noir. Je n'ai rien pu gagner aujourd'hui pour porter ma mère que son rhumatisme empêche de marcher depuis tantôt 2 semaines. Allons, père Rondeau, poursuivit-il en faisant visiblement un violent effort, prêtez-moi quelques sous pour elle et pour mes petites sœurs qui ont grand faim.
« Non, Jacques, non, cela ne servirait qu'à encourager ta paresse, » répondit le savetier avec brusquerie.
« Ainsi, ôte-toi de là et va-t'en bien vite, que je puisse fermer mon échoppe. Il fait nuit et je veux aller souper. »
Le petit orphelin ne se le fit pas dire 2 fois. Le cœur serré et l'oreille basse, il entra dans l'allée de la maison voisine et escalada sans tâtonner les 6 étages qui conduisaient à la mansarde occupé par sa famille.